Vous écoutez, on lit pour vous.
Même un faible niveau d'activité physique a des bienfaits pour la santé. Un texte de Jean-Benoît Legault de la Presse canadienne, paru le 19 mars 2026 dans la presse. Chaque seconde d'activité physique compte, rappelle une nouvelle étude qui précise que seulement 5 ou 10 minutes d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse chaque jour peuvent avoir un impact positif sur la santé. Et qui plus est, il n'est pas nécessaire de pratiquer cette activité physique en une seule séance, a rappelé le docteur Martin Junot, qui dirige l'Observatoire de la prévention de l'Institut de cardiologie de Montréal. Pour encourager les gens qui sont peu motivés, je leur rappelle qu'ils ne sont pas obligés de faire 15 minutes d'activité physique d'un seul coup, a dit le docteur Junot, qui a récemment signé un texte en ligne sur le sujet. Vous pouvez les découper en 3 morceaux de 5 minutes. Ça ne prend pas grand-chose. Et plus vous êtes sédentaire, plus ça va vous aider. La nouvelle étude publiée par des chercheurs norvégiens dans le réputé journal médical The Lancet constate que, chez les personnes qui font moins de 20 minutes d'activité physique par jour, l'ajout de seulement 5 à 10 minutes réduit considérablement le risque de mortalité comparativement aux personnes qui demeurent sédentaires. Et plus on part de loin, plus l'impact est positif, puisque les chercheurs ont mesuré une réduction significative de la mortalité chez les individus les plus sédentaires, moins de 10 minutes d'activité physique par jour, qui augmentaient brièvement leur volume d'activité physique. Chez ces mêmes individus très sédentaires, dont on suppose qu'ils ne bougent pas du tout pendant au moins 10 heures par jour, une réduction de 30 à 60 minutes du temps de sédentarité réduisait le risque de mortalité prématurée. Une augmentation modeste, mais réaliste, de l'activité physique modérée à intense de 5 minutes par jour pourrait permettre d'éviter jusqu'à 6% de l'ensemble des décès dans le cadre d'une approche axée sur les groupes à haut risque et 10% de l'ensemble des décès dans le cadre d'une approche à l'échelle de la population, écrivent les auteurs. Une réduction du temps passé en position assise de 30 minutes par jour pourrait permettre d'éviter une proportion plus faible, mais néanmoins significative, de décès dans ces deux scénarios de risque. Les preuves scientifiques qui appuient les bienfaits de l'activité physique sur différentes facettes de la santé ne sont plus à faire. Les experts ont toutefois réalisé depuis quelques années que le discours du type « 150 minutes d'activité par semaine pour être en forme » pouvait avoir un effet démotivant en laissant croire que c'était ça ou rien du tout. Le nouveau message est plutôt que chaque seconde d'activité physique ajoutée dans une journée compte. Et surtout, qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, même après 60 ou 70 années de sédentarité. Les gens continuent de penser que pour améliorer leur santé, il faut nécessairement faire du jogging ou aller au gym, et ça décourage beaucoup de gens, a dit le docteur Junot. Je pense qu'il faut que le message soit moins lourd, et c'est particulièrement vrai pour les gens plus âgés. Je l'entends chez mes patients qui me disent « J'ai 71 ans, je n'ai jamais fait d'exercice, je ne vais pas commencer aujourd'hui. » Ce n'est vraiment pas une bonne idée. Pire que jamais. La sédentarité semble pire que jamais depuis la pandémie, souligne le docteur Junot. Ce n'est pas rare de voir un adulte qui va passer 10 ou 12 heures par jour complètement inactif, a-t-il déploré. On regarde Netflix, on commande sur Amazon. Être complètement inactif, c'est très nocif pour la santé. Après 10 heures d'inactivité totale, votre risque de mortalité prématurée grimpe en flèche. Donc il faut casser ça en insérant de petites périodes d'activité physique dans votre journée. Marcher dans les couloirs de la maison ou même danser dans le salon à l'abri des regards indiscrets, une recommandation très populaire auprès des femmes, a constaté le docteur Junot, ne sont que quelques moyens de bouger pendant la journée. Il recommande aussi à ses patients âgés qui envisagent d'emménager dans une maison de plein pied de ne pas le faire pour continuer à avoir des escaliers à monter et à descendre. Le déconditionnement qui s'installera inévitablement en lien avec cette sédentarité compliquera encore plus la reprise du mouvement, a ajouté le docteur Junot, et l'individu risque de se retrouver dans un cercle vicieux où moins il bouge, plus il devient difficile de bouger. Ce déconditionnement risque de toucher particulièrement les quadriceps, ces muscles des cuisses qui sont sollicités quand on veut se lever d'une chaise. Quand vous êtes totalement inactif, vos muscles fondent littéralement, a dit le docteur Junot. Vous êtes tellement déconditionné que juste se lever pour aller à la salle de bain devient un effort. Et si vos quadriceps ont complètement dépéri et que vous avez besoin d'aide pour vous lever, comment voulez-vous rester autonome ? Même les patients qui vivent avec une insuffisance cardiaque ou qui se remettent d'une crise cardiaque doivent s'activer, a dit le docteur Junot. C'est certain qu'ils ont peur, a-t-il admis. Je dois les convaincre que ça ne va pas seulement allonger leur espérance de vie, mais que ça va aussi améliorer leur qualité de vie. Mais une fois qu'on a cassé ça, les gens sont vraiment contents parce qu'ils retrouvent une qualité de vie. Dans une autre étude, celle-là publiée par le journal Brain Research, des chercheurs britanniques rapportent que seulement 15 minutes d'activité aérobique entraînent la production d'une protéine importante pour la santé du cerveau. Et plus la personne est en forme, plus les qualités de cette protéine produite lors de l'exercice sont élevées. Les auteurs de cette étude ont observé des changements positifs chez leurs participants après seulement 6 semaines. C'était « Même un faible niveau d'activité physique a des bienfaits pour la santé ». Un texte de Jean-Benoît Legault de la Presse canadienne, paru le 19 mars 2026 dans la presse.
Une coupe franche dans les déchets. Un texte de Valérie Simard, paru le 27 mars 2026 dans la presse. Gants, tubes, papier à mèche, restes de coloration, cheveux, les salons de coiffure produisent beaucoup de déchets, mais une grande partie peut être récupérée. Un salon de coiffure montréalais en fait la preuve. Chaque semaine, si on remplit ce sac-là, c'est beau, dit Audrey Rioux, porte-Zeboski, en désignant une toute petite poubelle noire près du bar à café. On est un salon de coiffure, on fait environ 3 à 6 clientes chacune par jour. Cléo Coiffure est un petit salon spécialisé dans la coloration sur le plateau Mont-Royal. 3 coiffeuses seulement y travaillent, mais à leurs yeux, la quantité de déchets générés est énorme. Anissa Gravel nous montre 3 sacs transparents. L'un est rempli du papier d'aluminium utilisé pour les mèches et des tubes de coloration vides des 2 dernières semaines. Les 2 autres contiennent des cheveux et des restes de teinture récoltés sur une période de 3 mois. Selon les estimations de Green Circle Salons, une entreprise canadienne qui récupère les déchets des salons de coiffure, l'industrie produit 398 kg de déchets par minute au Canada et aux États-Unis. Après une 30aine d'années à travailler comme coiffeuse, technicienne en coloration et directrice chez Matrix, aujourd'hui une division de L'Oréal, Nathalie Lecourt est devenue propriétaire de Cléo Coiffure en 2014. À l'époque, il y avait déjà une conscience de ne pas gaspiller l'eau. On recyclait le carton, mais on était loin de recycler tous nos restants de coloration, nos papiers souillés, se souvient la femme de 60 ans. Aujourd'hui, dans son salon, rien de tout cela n'est jeté à la poubelle ou dans les égouts. Depuis 2016, le salon est membre de Green Circle Salons, comme environ 200 autres au Québec. Il y envoie ses métaux, ses restes de coloration, ses articles à usage unique et ses cheveux. Les contenants et emballages de carton et de plastique sont mis au bac de récupération. Des produits nocifs pour la nature. Ce qui m'a interpellé, c'est que c'est la seule compagnie qui peut reprendre tous nos déchets, y compris nos restants de coloration, indique Nathalie Lecourt. Même en notant les quantités de teinture utilisées pour leurs clientes régulières et en le pesant, l'étape des mélanges génère souvent des surplus qui finissent dans l'évier. Les rejets de teinture capillaire sont nocifs pour la nature. Bien que les produits utilisés par le salon soient faits à plus de 90 % d'ingrédients naturels, ils contiennent certaines substances chimiques qui ne sont pas biodégradables et qui peuvent s'accumuler dans les cours d'eau et intoxiquer la faune. Pour moi, c'est inconcevable qu'on jette les restes de coloration dans le lavabo, lance Audrey Rioux, porte-Zeboski, qui, ayant commencé sa carrière chez Cléo Coiffure il y a 8 ans, n'a rien connu d'autre. Le salon paie un abonnement à Green Circle Salons qui lui envoie un nombre prédéterminé de boîtes pour récupérer les différentes matières. Une fois remplies, les boîtes sont envoyées en Ontario par camion. Les émissions carbone qui y sont rattachées sont compensées. Ça pourrait être incommodant et difficile, mais le processus est très facile, affirme Anissa Gravel. Green Circle Salons n'a pas répondu à notre question sur la destination finale des matières. Elle précise que la société NSF, effectue chaque année un audit indépendant de ses activités qui garantit que les déchets récupérés sont valorisés. Les cheveux peuvent être compostés, utilisés dans des produits biocomposites comme des peignes durables ou dans des projets environnementaux et humanitaires, notamment lors des déversements de pétrole. L'aluminium est fondu et transformé. Les résidus de coloration sont incinérés et convertis en énergie. Services privés et collecte municipale. Pour financer le service, certains salons de coiffure partagent les frais avec leurs clients. Chez Cléo Coiffure, 2 $ sont ajoutés au prix de chaque coupe et coloration. Le salon assume également des frais de 2 $ par cliente. Une partie de la somme recueillie sert à couvrir les frais d'abonnement, l'autre partie à financer des initiatives éco-responsables comme l'achat d'ampoules d'ailes, de pantoufles et de tasses réutilisables. Le salon offre aussi à ses clientes le remplissage des bouteilles de produits comme les shampoings. Le recours à un service de récupération privé et payant n'est toutefois pas ce que privilégie Recycle Québec. Le transport des déchets sur de longues distances entraîne l'émission de gaz à effet de serre. La Société d'État recommande d'utiliser les services locaux existants, notamment les collectes municipales. Par courriel, Green Circle Salons assure encourager également les salons à recourir aux programmes municipaux locaux lorsqu'ils existent. L'entreprise affirme proposer une solution pour les déchets difficiles à recycler que les systèmes municipaux ne peuvent souvent pas traiter. Certaines des matières récupérées par Green Circle Salons sont acceptées dans les collectes municipales au Québec. Beaucoup l'ignorent, mais les papiers et les tubes en aluminium, même souillés de teinture, peuvent être déposés dans le bac de récupération. Les cheveux peuvent être mis dans le bac brun. À Montréal, les commerces ont accès à la collecte de matières organiques à certaines conditions. Les aérosols doivent être apportés à l'éco-centre. Nathalie Lecourt dit avoir choisi ce service de bonne foi. « C'est définitivement une prise de conscience », déclare-t-elle, après avoir pris connaissance de cette information. « Ça va nous coûter moins cher si on en envoie moins. » Leur source d'inspiration. Le contact avec de jeunes clientes qui ressentent de l'éco-anxiété motive Nathalie Lecourt à diminuer l'empreinte environnementale de son commerce. Elle pense aussi à l'avenir de ses futurs petits-enfants. « Quand je réalise tout ce que j'ai jeté à la poubelle, que ce soit dans mon métier ou à la maison, ça m'attriste et je me dis qu'il faut que je fasse attention. » Quant à Audrey Rio Portzeboski et à Anissa Gravel, elles citent leurs parents. Le père d'Audrey travaillait dans le recyclage de pneus et les parents d'Anissa ont possédé un magasin d'aliments en vrac. « J'ai toujours eu ça en moi, je pense », dit Anissa. En savoir plus. 108 kg, 2 points. Poids des déchets envoyés par Cléo Coiffure à Green Circle Salons en 2025. C'était « Une coupe franche dans les déchets », un texte de Valérie Simard, paru le 27 mars 2026 dans la presse.
Les droits de patientes restent mal respectés en gynécologie obstétrique. Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 18 mars 2026 dans Le Devoir. Quoi retenir? Une étude sur 1200 femmes au Québec indique un manque de respect des droits des patientes en soins obstétricaux et gynécologiques, notamment en matière de consentement. Seulement la moitié des patientes étaient informées de leur droit de refuser des soins ou de contester des recommandations médicales. Plus de 80 % des patientes sont satisfaites des compétences médicales, mais seulement 62 % font confiance au système de santé. Des manquements persistent dans le respect des droits et de l'autonomie de patientes lors de soins obstétricaux et gynécologiques au Québec, selon une étude menée auprès d'environ 1200 femmes. Dans plus de la moitié des expériences rapportées, au moins un droit de la patiente n'a pas été respecté. Les atteintes, le plus souvent signalées, concernent le fait que le consentement n'a pas été demandé pour un examen vaginal, 28 % ou pour la participation d'étudiants en médecine à des actes médicaux, 45 % Au Québec, aucun soin ne peut être pratiqué sans consentement libre et éclairé, indique le Collège des médecins du Québec sur son site. Si, dans la pratique, certains gestes reposent sur un consentement implicite, comme tendre le bras pour une prise de sang, des actes plus intimes nécessitent des explications claires et un accord explicite, précise-t-il. Jusqu'ici, l'expérience des patientes en obstétrique et en gynécologie dans la province n'avait pas été beaucoup étudiée. Peu de données existaient, notamment sur les soins déshumanisants, souligne Sylvie Lévesque, professeure au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, et autrice principale de l'étude. Pour remédier à la situation, une recherche a donc été menée à l'aide d'un questionnaire d'auto-évaluation en ligne distribué entre juillet 2023 et janvier 2024. Les résultats d'un premier volet de l'étude ont été publiés en janvier dans la revue Health, Psychology and Behavioral Medicine. Au total, 1158 personnes y ont pris part et ont témoigné de 1258 expériences. Même s'il est important, l'échantillon n'est pas représentatif de l'ensemble des Québécoises ayant reçu ces soins, notamment en matière d'âge, de niveau d'éducation ou de pays de naissance, note-t-on toutefois. Les participantes devaient répondre aux questions en fonction de leur expérience de soins la plus récente, en obstétrique ou en gynécologie, survenue au cours des 7 dernières années. Les services pouvaient avoir été donnés par différents professionnels, des médecins de famille, des spécialistes, des infirmières, et concerner notamment un accouchement suivi de ménopause, des consultations en santé sexuelle ou des traitements de fertilité. Manque d'informations. Selon les résultats, les patientes n'ont été informées qu'elles pouvaient refuser un soin que dans seulement la moitié des expériences rapportées, souligne Sylvie Lévesque. Elles ignoraient dans une proportion similaire qu'elles pouvaient remettre en question ou contester les recommandations du professionnel de la santé. Ce qu'on nous partage, c'est que dès le moment où tu entres dans la salle de consultation, c'est comme si tu donnais ton consentement à peu près à tout ce qui va s'y dérouler, indique la chercheuse. Un environnement sécuritaire est pourtant essentiel dans ces soins qui touchent directement à l'intimité des patientes, soutient Mme Lévesque. Il y a un dévoilement, tant des organes génitaux que de l'histoire personnelle. Outre les manquements, l'étude mesurait aussi la satisfaction des patientes à l'égard de la compétence des personnes ayant fourni les soins. Plus de 80 % s'en disent satisfaites. Or, seuls 62 % affirment faire confiance au système de santé après cette expérience. Pour expliquer cet écart, Sylvie Lévesque avance que la satisfaction reflète surtout la dernière expérience, tandis que la confiance dans le système s'appuierait plutôt sur l'ensemble de la trajectoire de soins, ainsi que sur les témoignages entendus au sujet du réseau. Forcer d'accepter un traitement. Selon l'étude, environ une participante sur 10 rapporte par ailleurs avoir été forcée d'accepter un traitement ou une procédure non souhaitée. À son accouchement en août 2023, dans un hôpital montréalais, Françoise Lépine aurait aimé que les soignants soient là pour la guider et non pour faire les choix à sa place. La mère, aujourd'hui âgée de 43 ans, relate qu'elle refusait d'accoucher sur le dos car c'était extrêmement douloureux et difficile. Elle voulait plutôt donner naissance à quatre pattes, ce qu'on lui a refusé. Le médecin a alors levé le ton pour qu'elle adopte la position sur le dos. Accoucher en se faisant engueuler, c'est l'horreur. Ça a causé de la détresse, car c'était déjà un moment vraiment stressant. J'étais déjà au bout de ce que je pouvais supporter, raconte Mme Lépine. Elle dit regretter que la soignante n'ait pas engagé de réel dialogue avec elle. J'aurais aimé qu'elle se penche à ma hauteur et qu'on trouve des solutions qui respectent mes droits. Entre urgence et consentement. Si des lacunes persistent en matière de respect des droits et de l'autonomie, Mme Lévesque avance notamment l'hypothèse d'une pression ressentie par les soignants pour voir un grand nombre de patients. Il y a un volume important de demandes. Pour en savoir plus, la professeure sonde d'ailleurs présentement le personnel médical. On veut recueillir leurs perspectives sur la façon dont les soins sont donnés. On veut les entendre à propos de contextes ou d'obstacles systémiques à la mise en place de soins centrés sur la patientèle. De son côté, l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec, AOGQ, explique que les soins obstétricaux se font parfois en contexte d'urgence. Dans ces cas, ça nous limite en temps et opportunité d'avoir des longues conversations pour obtenir le consentement approprié, mentionne le président de l'AOGQ, le docteur Dominique Tremblay. Des solutions sont toutefois mises en place pour s'assurer que les soins prodigués sont respectueux, fait valoir le docteur Tremblay. La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada recommande aux femmes d'avoir un plan de naissance pour que leurs attentes soient déterminées et qu'on puisse, dans la mesure où c'est réaliste, les appliquer et respecter leurs désirs. C'était « Les droits des patientes restent mal respectés en gynécologie obstétrique ». Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 18 mars 2026 dans Le Devoir.
Bijou d'architecture moderne, l'église Saint-Gérard-Magella sera démolie. Un texte de Jeanne Corriveau, paru le 27 mars 2026 dans Le Devoir. Décrite par les défenseurs du patrimoine comme un bijou d'architecture moderne, l'église Saint-Gérard-Magella à Saint-Jean-sur-Richelieu sera finalement démolie. Désireuse de mettre un terme à des procédures judiciaires qui risquaient de s'étirer et de lui coûter cher, la ville a décidé de conclure une entente avec le promoteur immobilier qui pourra ériger un immeuble de 40 logements sur le site. Assez, c'est assez. Ce dossier-là a beaucoup trop tergiversé. Le temps est maintenant à la décision, a soutenu le maire Éric Latour avant d'appeler le conseil municipal en assemblée à voter sur la résolution qui a scellé le sort du bâtiment. À la majorité, les élus ont donné leur aval à la démolition de l'église, ce qui permettra le retrait du pourvoi en contrôle judiciaire déposé par le promoteur devant la Cour supérieure. Le propriétaire du terrain pourra donc aller de l'avant avec la construction d'un immeuble de 40 logements. Il devra en revanche verser à la ville une somme de 200 000 $ pour le fonds municipal destiné à financer le logement social et abordable, ainsi qu'une redevance de 5 000 $ par logement. La résolution a toutefois divisé les élus. Ce qu'on nous demande, c'est d'entériner cette façon de faire et accepter la démolition. Ça envoie un signal préoccupant. Ça revient à dire qu'un promoteur peut laisser un bâtiment se détériorer, malgré ses engagements, en attendant que la situation devienne irréversible, a fait valoir le conseiller Louco Boisvert avant de voter contre la proposition. Depuis au moins 2015, le maire Latour estime que la ville se devait de mettre un terme au litige qui l'opposait depuis des années au propriétaire du site, Régent Roy, et qui s'annonçait coûteux pour la ville. D'autant que l'état du bâtiment ne cessait de se dégrader. On est confronté à un bâtiment qui, au moment où le diocèse l'a vendu en 2015, je vais utiliser des mots crus, il était scrap. 10 ans plus tard, il est encore plus scrap. Et savez-vous quoi? Dans 5 ans, il va l'être encore plus, a-t-il expliqué. C'est plate, ça n'aurait pas dû se passer de même, mais à un certain moment, il faut être pragmatique. L'église était inoccupée depuis 2 ans, quand, en 2015, la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste l'a vendue à un promoteur, faute de moyens financiers pour effectuer les importants travaux de rénovation qui étaient nécessaires. Devant l'opposition de citoyens à la démolition de l'église, le promoteur avait évoqué l'idée de l'intégrer à son projet immobilier. Par la suite, il avait présenté des plans prévoyant l'aménagement de logements et d'un boulodrome dans l'église préservée. En 2024, le promoteur avait finalement déposé une demande de démolition compte tenu de l'état de délabrement de l'église et des coûts élevés liés à la réhabilitation du bâtiment. En septembre 2025, le conseil municipal s'était toutefois prononcé contre la destruction de l'église, ce qui avait incité le promoteur à s'adresser à la Cour supérieure dans l'espoir de faire annuler la décision des élus. Construite en 1962, selon les plans de l'architecte Guy Desbarats, l'église Saint-Gérard-Magellan avait reçu la cote la plus élevée du Conseil du patrimoine religieux du Québec en raison de son architecture exceptionnelle. En plus de sa voûte asymétrique aux lignes courbes qui lui donnaient son originalité, l'église comportait des vitraux conçus par Jean-Paul Mousseau et des œuvres du céramiste Gabriel Loire. C'était « Bijoux d'architecture moderne, l'église Saint-Gérard-Magellan sera démolie ». Un texte de Jeanne Corriveau paru le 27 mars 2026 dans Le Devoir.